Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain des cieux. Oui, c'est mon corps. Prenez, c'est mon sang. Et mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez c'est mon sang. Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
Après le repas, Jésus dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'aboirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur nous attend dans son royaume et nous devons veiller afin que nous puissions communier avec lui quand il va revenir prendre son Église. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps de communion que nous avons eu avec toi. Notre prière est que tu nous préserves de tout mal, de toutes chutes, afin que lorsque tu reviens prendre ton Église, tu nous trouves disposés à aller avec toi et à jouir avec toi dans le royaume des cieux. Garde la foi de chacun et préserve-nous de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup. C'est dans la joie que nous venons de partager cette communion. Je crois que c'est une annonce que nous continuons à le faire, puisque Dieu est bon pour nous. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons aussi maintenant à la parole de Dieu. C'est le même le révérend Gessera qui va nous conduire dans la méditation de ce matin.
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'avoir le temps d'écouter sa parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. La lecture qui nous concerne ce matin est très longue, mais nous allons la raccourcir. Nous avons prévu lire 1 Pierre, chapitre 1er, le premier verset jusqu'au verset 21. Mais nous allons raccourcir cette lecture à sauter quelques parties dans ces textes qui nous intéressent pour la méditation de ce matin. Si vous avez trouvé 1 Pierre, chapitre 1er, je conduis la lecture à partir du premier verset et je la conduis dans le nom de Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ fera quoi? Apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, à qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Nous allons au verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la grâce que le Seigneur nous donne ce matin, nous sommes en train de poursuivre avec la thématique que nous avons commencé depuis le début de cette année, restaurer pour conquérir. Je vous rappelle que notre attention a été concentrée sur ce thème depuis un certain temps. Et ce matin, nous avons passé à aborder un sous-thème intitulé « Notre restauration était plan éternel de Dieu ». Notre restauration était plan éternel de Dieu. Je voudrais que dans tout ce que je veux dire à ces lieux, vous soyez à mesure de vous rappeler que Dieu a prévu votre restauration dans un plan éternel qu'il a conçu lui-même. La volonté de Dieu, c'est notre salut parfait. Vous savez que depuis 3 semaines, nous faisons la réflexion sur la confiance à Dieu malgré la dépression dans ce monde des ténèbres. Nous sommes en train de vivre la dépression. Et malgré cette dépression, nous devons continuer à fixer nos regards sur Dieu. Les dimanches passés, nous avons reçu le message sur Paul qui a été restauré, qui a été transformé. Il est passé de Saul à Paul. Et nous avons vu qu'il s'agit là des modèles de restauration pour la vie des conquérants. Pour conquérir, pour être à mesure de conquérir, vous devez vous rassurer que vous avez été restauré, vous avez été transformé. Et ce matin, nous voulons attirer l'attention sur cela, sur cette transformation qui est un plan éternel de Dieu. Dieu veut notre restauration. Et ainsi, quelle que soit la dépression, quelles que soient les réalités qui peuvent nous arriver dans notre vie, il veut nous voir triompher à tous égards. Vous savez, quelquefois, quand les difficultés deviennent nombreuses, il nous arrive d'oublier que nous avons Dieu qui prie pour notre réussite. Quand Jésus a fini
son parcours avec ses disciples sur la terre. Quand vous lisez Jean chapitre 17, la Bible dit, Jésus voit les disciples qui sont dans l'angoisse. Et en finissant les paroles qu'il les a adressées, quand vous lisez en Jean chapitre 17, Jésus va prendre le temps de prier pour les disciples. Et une des choses qu'il va prier pour les disciples, c'est de dire que même s'il reste dans le monde, il faut qu'il triomphe du monde. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est notre salut. La volonté de Dieu, c'est notre réussite. Et même quelles que soient les difficultés, quelle que soit la dépression et la menace dans laquelle nous nous retrouvons, nous avons Dieu qui intercède en notre faveur. Il veut qu'à tout prix, nous puissions triompher. Même si le monde s'embire, Dieu veut notre restauration. Il veut que nous puissions ressembler à lui à tous égards. L'épître de Pierre que nous venons de lire. Et alors le premier chapitre, comme c'est le chapitre qui introduit tous ces livres, l'épître de Pierre est adressé à des chrétiens dispersés dans le monde, des chrétiens qui vivent comme des étrangers. Mais malgré qu'ils sont dispersés, ils sont élus selon les desseins de Dieu pour obéir en Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Même s'ils sont des étrangers, même s'ils sont dispersés, Dieu les a élus afin qu'ils obéissent en Jésus-Christ et afin qu'ils puissent avoir part à l'aspersion de son sang. Et ça, c'est un élément important parce que malgré la dispersion dans ce monde, la dispersion exprime les défis de vivre à l'étranger, les défis de vivre dans une terre qui ne les appartient pas. Mais malgré cela, Dieu les a choisis d'avance afin qu'ils puissent obéir en Jésus-Christ et qu'ils puissent participer à l'aspersion de son sang. L'obéissance à Jésus, dont Pierre fait allusion dans l'introduction de ce chapitre, c'est le signe par excellence de l'attachement à Dieu. Le fait que nous ne nous relâchions pas, même quand tout semble noir, malgré la dispersion, Dieu veut que nous restions obéissants à Jésus-Christ. La participation à l'aspersion du sang de Jésus, dont Pierre fait allusion ici, c'est à la fois une voie de souffrance. C'est un chemin de souffrance, mais en même temps un chemin du salut. Être chrétien, c'est accepter de participer à l'aspersion du sang de Jésus. Et quand nous parlons de l'aspersion du sang de Jésus, nous regardons Jésus qui souffre. Le sang de Jésus a été aspergé par la souffrance. Mais le sang de Jésus déclare aussi que nous sommes victorieux. Et donc, appartenir à Dieu et participer aux souffrances de Jésus-Christ, c'est aussi participer à la victoire de Jésus-Christ. Quand Paul dit les chrétiens sont dispersés dans le monde, ils doivent participer à l'obéissance à Jésus-Christ et à l'aspersion du sang de Jésus, il est autrement en train de dire que malgré la dispersion, malgré les souffrances que les chrétiens connaissent, mais ils sont appelés en même temps à participer aux souffrances de Jésus, mais celui qui participe aux souffrances de Jésus, il est celui qui en même temps participe à sa victoire. Pierre souligne en cela que malgré nos souffrances, malgré la réalité précaire, la dépression, les menaces et tout ce qui nous accompagne dans ce monde, Dieu nous a régénérés. Il nous a mis à part afin que nous soyons en mesure de rester attachés à lui et de ne jamais l'abandonner. Quand nous continuons avec, à partir du verset 3 et à descendant, Paul, plutôt Pierre, donne trois éléments qui doivent construire la foi d'un enfant de Dieu. La première chose, il dit, les chrétiens obtiennent sa force parce qu'il a été régénéré, et cette génération a trois objectifs qui sont les suivants. Le premier objectif, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si vous lisez le verset 3, vous allez voir ça. Nous sommes dispersés. Nous faisons face à des difficultés, à des réalités où nous ne comprenons rien. Mais malgré cela, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je nous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que le grand miracle que nous avons comme enfants de Dieu, c'est que nous adorons celui qui est mort et il est ressuscité. Et donc, toutes les fois que tu passes par des conditions difficiles, avant que tu ne penses qu'il faut abandonner le Seigneur, rappelle-toi que il n'y a que seul maître qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et donc, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, il est celui qui nous donnera la victoire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que s'il a donné la victoire sur la mort, qu'est-ce qui peut nous intimider, qu'il soit difficile et compliqué que la mort? Et c'est ça qui laisse que nous restions attachés à Dieu. Alléluia. Nous passons par des moments difficiles, mais la grande chose pour laquelle Dieu nous met à part, c'est l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection nous tient à cœur comme un élément de base, un fondement qui permet que même quand la vie semble noire, nous ne pouvons pas abandonner parce que notre maître, il est victorieux et par la victoire qu'il a obtenue, nous aussi nous sommes victorieux. La deuxième chose, Dieu nous a régénérés, il a prévu notre régénération pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer. Un héritage plus excellent. L'héritage le plus excellent que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous avons la vie éternelle. Le repos auprès de Dieu lui-même. Cet héritage ne peut jamais se corrompre ni s'essuyer. Les biens de ce monde peuvent s'essuyer et se corrompre. Mais l'héritage qui est prévu pour notre régénération, l'héritage qui est prévu pour ceux qui s'attachent à Dieu, c'est l'héritage qui ne peut se corrompre ni s'essuyer. Ce qui nous permet de rester attachés à Dieu, c'est parce que nous avons un héritage qui, même si notre vie devient difficile sur ce monde, mais nous regardons vers l'héritage qui ne peut s'essuyer ni se corrompre. Vous savez, l'héritage de ce monde, un parent peut laisser l'argent à ses enfants dans une banque. Mais après, quand il y arrive, on lui dit, non, cet argent-là, ah, la banque a été fermée ou alors il y a eu un problème. Et l'héritage qu'il est resté avec ne va rien servir parce que c'est l'héritage du monde qui se corrompt et qui s'essuie. Mais nous avons été régénérés. Dieu nous appelle à la régénération parce qu'il y a un héritage qui est mis à part pour nous. C'est le royaume des cieux, l'héritage qui ne peut se corrompre ni s'essuyer. Et c'est ça qui doit nous permettre d'avancer. Malgré les défis de ce monde, nous devons avancer dans notre foi à cause de cet héritage qui nous attend. Au verset 5b, il donne un troisième élément. Nous avons été régénérés. Dieu a prévu notre régénération pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Le salut des enfants de Dieu, c'est une réalité finale. Si nous passons par des souffrances maintenant, Cela ne détermine en aucun cas notre condition finale. La réalité, c'est que un enfant de Dieu ne construit pas sa foi sur ce qui se voit maintenant. Un enfant de Dieu construit sa foi sur la finalité. Et appartenir à Dieu signifie déjà que sur le plan final de votre lutte, vous avez la victoire. C'est pour cela que vous verrez Paul en train de dire quelque part dans la Bible que lorsque nous appartenons à Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que même si il peut arriver qu'à cause des difficultés de la vie, nous ne savons plus marcher, mais nous savons que notre victoire est déjà d'avance annoncée. Et quels que soient les défis du monde, nimehaidiwa ou falme mwema. Quels que soient les défis de ce monde, la victoire est certaine. Quelle grande chose de marcher dans ce combat alors que vous savez que c'est vous qui allez gagner. C'est ça. C'est ça le bien d'appartenir à Dieu. Nous marchons dans ce monde, mais nous savons qu'au final, à cause de notre attachement à Dieu, nous allons gagner. Mais il faut faire attention parce que le diable profite ici. Plusieurs se sont détournés de la foi par le fait qu'ils ont cherché à avoir un confort dans le présent. Toutes les fois que vous passez par les moments difficiles, fixez le regard sur Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu a prévu notre régénération. Quand tu souffres, fais attention parce que le diable, lui, il veut que lorsque tu souffres, il te montre que ce que tu es en train de vivre là, c'est parce que tu appartiens à Dieu. Mais en réalité, les difficultés, selon l'épître de Pierre, font partie de notre vie. Pierre dit, même l'or périssable passe par le feu pour être éprouvé. Et alors votre foi, parce qu'il est, il est très estimé pour Dieu, cette foi-là doit être éprouvée par les difficultés. Pierre mentionne au verset 6 à 7. Il dit, ce qui doit faire votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé par épée, pour épée de temps par diverses épreuves, c'est afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, ait pour résultat ou produise la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaît. La chose la plus importante et qui tient davantage la jalousie de Dieu, c'est que nous soyons à mesure de l'aimer sans l'avoir vu, que nous soyons à mesure de croire à lui alors que nous ne l'avons pas encore vu, que nous soyons à mesure de nous réjouir du résultat qu'il a prévu pour nous. Et c'est ça la chose pour laquelle Dieu intercède à notre faveur au quotidien. Dieu veut que nous restions attachés à lui, quelles que soient les réalités que nous puissions connaître dans ce monde. Alors, si Dieu nous appelle à la régénération, s'il a prévu le plan de notre régénération depuis longtemps, quelles sont les implications de cette régénération. Dieu qui a prévu d'avance notre régénération, qui a voulu que nous soyons mis à part pour lui, il nous appelle à mener une vie digne de lui. Le verset 13 jusqu'à 20 commence à dire ça. C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le salut est prévu d'avance pour ceux qui veulent s'attacher à Dieu. Dieu a prévu notre restauration d'avance. Avant que nous les connaissions, il avait prévu que nous soyons une richesse pour lui. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à saigner nos reins, qu'il nous appelle à veiller et à mener ce que nous appelons une vie de sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification parce que la régénération qu'il a prévue ne peut être une réalité dans notre vie que si nous menons une vie différente des gens de ce monde. Je me suis intéressé à définir ce que c'est la sanctification pendant les quelques minutes qui restent. Je vais y aller. La sanctification à laquelle Dieu nous appelle signifie quoi? La sanctification, c'est une réalité qui est possible dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à la sanctification, cette vérité ou cette réalité est une réalité atteignable. Il est possible, malgré les défis, malgré les circonstances de notre vie, il est possible de vivre la sanctification. Et la sanctification signifie que vous menez une vie de tous les jours qui est agréable à Dieu. Tout commence par la conversion. Et quand vous vous convertissez comme Paul lui-même, qui était Saul, il est devenu Paul. Et après vous avoir converti, vous êtes mis à part pour Dieu et votre comportement doit se conformer du jour au jour à la volonté de Dieu. La sanctification, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie qui suit la transformation. Vous avez été transformé et à cause de cette transformation, vous commencez à mener de plus en plus une vie agréable à Dieu. Et je vais rappeler ici que il est possible de ressembler à Dieu ou de mener une vie agréable à Dieu si on n'a pas fait de Dieu son ami et nous rendre dignes d'être appelés ses enfants. Dieu a prévu notre salut d'avance afin que notre vie soit une vie de sanctification, une vie qui plaît à lui. La deuxième chose, être saint, c'est rechercher la vérité. Être saint, c'est chercher ce que Dieu veut, s'y attacher et s'y appliquer. La sanctification ne se vit pas dans les discours. La sanctification se vit à travers les œuvres. C'est par nos œuvres que les gens doivent voir la sanctification. C'est donc être prêt à vouloir connaître dans chaque circonstance quelle est la volonté de Dieu. Dieu a prévu notre salut d'avance afin que notre vie soit une vie d'examen quotidien. Que nous soyons à mesure de dire, dans tout ce que je réalise, quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire. Et donc, que vous soyez dans quelles circonstances, la volonté de Dieu, c'est que vous restiez attachés à ce qu'il veut. Il s'agit de contrôler tout ce qui entre par nos sens, tout ce qui nourrit notre esprit et tout ce qui nourrit notre être. Ce que j'écoute, est-ce que ça contribue à la gloire de Dieu? Ce que je fréquente comme réalité, les amis que je fréquente, est-ce qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu? Dieu a prévu notre salut d'avance afin que nous soyons à mesure de faire cet examen au quotidien. Toutes les réalités que nous faisons doivent être éclairées par la volonté de Dieu. Troisième élément, être saint, comme Dieu lui-même est saint, se devenir sa cible au péché. Devenir sa cible au péché. Le Saint-Esprit, quand il habite en nous, il nous avertit. Il nous convainc de péché. dans nos situations de la vie, la voix du Saint-Esprit est en train de dire quelque chose. Je l'ai toujours dit, personne ne peut pécher et dire « je ne savais pas ». Personne ne peut pécher. Quelqu'un ne peut pas aller prendre à Kahembe, tu vas prendre une chèvre, on te retrouve à Gomaville avec une chèvre et tu dis « oh, je ne savais pas que j'ai déjà pris la chèvre d'autrui ». Non. Quand tu fais une chose, il y a une voix qui te dit, ce que tu fais là, c'est bien. Et si c'est mauvais, même le pécheur en faisant le péché, la voix intérieure en train de lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et donc, quelqu'un ne peut pas dire, bon, je ne savais pas vraiment, non. Quand nous serons devant le Seigneur, le Saint-Esprit, il fait son rôle sur la terre. Il convainc chacun de son péché. C'est pour cela que lorsqu'on définit le péché, on le définit comme étant la désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est là. Elle est même à l'intérieur de toi. Mais quand tu fais le mal, c'est une décision que tu prends volontairement. On est soit c'est fait, ouais. Le Saint-Esprit nous permet d'être sensibles au péché. Le Saint-Esprit nous permet de faire attention aux situations que nous sommes en train de vivre. Et je vais vous dire, si vous voulez faire l'évaluation de votre vie spirituelle, faites attention quand ces choses vous arrivent dans la vie. Je donne quelques exemples. La première chose. Certaines justifications du péché au nom de l'évolution du monde ou alors au nom de tout le monde le fait. Faites attention, quand cela commence à arriver dans votre vie, c'est que vous êtes sur un chemin très glissant. Ah, le monde a évolué. Vous savez, il y a des choses, avant ça pouvait se faire. Mais aujourd'hui, bon, le monde lui-même déjà permet que ceci puisse se faire. Alors que vous savez à l'intérieur que c'est un péché. Il faut faire attention quand vous commencez à justifier. J'ai connu un enseignant qui m'a aidé. Il m'a dit, fiston, si on veut te reprocher d'une chose, la première chose, ne cherche pas à justifier. Parce que quand tu veux justifier, souvent, on veut justifier pour vouloir couvrir quelque chose. Et quand vous avez voulu justifier, vous avez couvert, mais l'erreur reste là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de justification. Tu peux dire, frère, sœur, je crois que ça, ce n'est pas commode pour les affaires de Dieu. Ah, ça, c'était ancien. Aujourd'hui, avec l'évolution, ceci est déjà normal. Dieu n'a pas changé. C'est lui qui était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Que le monde évolue. Que les gens pensent qu'ils évoluent, Dieu reste le même et nous devons apprendre à rester attachés à la volonté de Dieu. Faites attention toutes les fois que vous êtes devant une justification de tout le monde le fait. Qui suis-je pour ne pas le faire? Plusieurs personnes se sont perdues là-bas. Les gens font les choses parce que tout le monde le fait. Être enfant de Dieu, c'est apprendre à se démarquer, apprendre à être différent, apprendre à mener une vie à contre-courant. Même si tout le monde allait à l'est, aussi longtemps que Dieu n'a pas dit d'aller à l'est, aller à l'ouest. Je vous ai dit ceci, la victoire des enfants de Dieu, ce n'est pas dans le présent. Le monde ne vous comprendra pas. Et d'ailleurs, il faut faire attention. Toutes les fois que le monde vous acclame, allez vous poser la question de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Parce que la réalité, c'est que si nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours l'opposition du monde. Être enfant de Dieu, c'est accepter d'aller à contre-courant parce que la volonté de Dieu vous demande de ne pas faire ce que tout le monde fait. La volonté de Dieu vous demande de regarder ce qui est agréable à Dieu. Et donc, faites attention quand vous faites l'évaluation de votre vie. Si vous commencez à vous attacher sur le fait que tout le monde le fait, là, vous êtes en train de risquer d'aller sur une mauvaise voie. La chose sur laquelle je vais finir, c'est la sensibilité au péché. Je vais poser une question aux étudiants et aux élèves qui sont à ces lieux. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un triche à côté de vous? Comment vous vous sentez quand quelqu'un triche à côté de vous?
Ah, la sensibilité au péché.
Être sensible au péché signifie que je ne tolère pas le mal à côté de moi. Être sensible au péché signifie que là où j'arrive, c'est le règne de Dieu qui arrive. Et là où Dieu arrive, le règne du ciel est là et le mal n'a pas de place. Là où la lumière arrive, chasse l'obscurité. Alléluia. Dieu a besoin que nous soyons des personnes qui disent, parce que je suis né dans cette famille, l'obscurité, la lumière est là.
La sensibilité au péché.
Nous sommes dans un monde où les gens font des choses à côté de nous. On se dit, ça c'est leur truc. Laissez-les, c'est leur truc. Chacun a sa vie privée.
Mais la sensibilité au péché nous dit, il ne faut pas que nous soyons à mesure de tolérer le mal à côté de nous.
Quand le sel arrive dans la nourriture,
les microbes lui-même, on ne forme pas aux microbes. Le microbe, quand il veut venir goûter, il dit, il y a déjà le sel. Et le sel lutte contre la putréfaction.
Quand la lumière arrive, on n'a pas besoin de communiquer à l'obscurité qu'il faut partir.
L'obscurité elle-même se forme que la lumière arrive. L'obscurité pas.
Quel est notre comportement face au péché? Quel est notre degré de sensibilité au péché? Comment nous comportons-nous quand nous voyons les gens vivre à côté de nous? Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin nous rappelle que Dieu a prévu notre salut d'avance. Il a prévu que nous puissions l'appartenir et que nous puissions avoir le royaume des cieux comme héritage. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas au ciel, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Le problème c'est comment nous avons mené notre vie. Et alors, le message de ce matin nous dit que si nous voulons rester dans le plan du salut de Dieu, nous devons nous examiner sur le plan de notre sanctification. Nous devons voir comment nous marchons avec Dieu. Marcher dans la vérité, marcher dans la sensibilité au péché et avoir une vie d'examen de la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Les difficultés peuvent nous arriver. La réalité de ce monde peut être incompatible à notre volonté. Ce qui importe, ce n'est pas que le monde nous plaise. Ce n'est pas que le monde nous offre ce que nous aurions voulu recevoir. Mais ce qui nous plaise, c'est que même quand le monde semble noir et même quand nous ne comprenons rien, nous soyons à mesure de rester attachés à Jésus. Nous soyons à mesure de rester connectés sur celui qui nous a donné le salut. C'est la seule chose que Dieu attend de nous et que Dieu bénisse sa parole. Amen.